France Inter.
La bande originale, bonjour, bienvenue dans cette bande originale de vos vacances, si vous avez la chance d'en prendre, avec Leïla Kadour-Boudadi, oui, Daniel Morin et toute l'équipe, au programme aujourd'hui le meilleur.
Eh bien ce matin, si on se disait les choses en famille,
oh non,
oh non. Surtout c'est en pas. Tout cas ce qui se passe dans la pièce, je me souviendrai de presque tout grâce à un dialogue ciselé entre un père et son fils, incarné par nos invités Pierre Arditi et Nicolas Briançon.
Alors sur les deux, il y en a un qui est très sympa et puis il y a l'autre.
On vous salue Pierre, on vous salue Nicolas, ravi de vous accueillir pour parler de cette pièce signée Alexis Macquart, qu'on a eu la chance de voir, de vous applaudir au Théâtre Montparnasse, c'était même la première. Alors je ne sais pas comment les autres soirs se sont passés, il y a quelque chose de magique dans une première. Non mais une première c'est particulier parce qu'on a des potes, des amis, sa famille, c'est la première fois qu'on est dans le rythme des rires du public.
Ouais.
C'est ça ?
Oui. On découvre la réponse à un certain nombre de semaines de travail. On a enfin le quatrième mur.
Est-ce que vous réglez les choses ensuite ? Est-ce que le tempo a changé ? Est-ce que justement ce match entre vous et le public, ce rythme a changé ou pas ?
Ça change forcément, parce que le soir de la première, il y a une tension un peu plus forte. On ne sait pas à quoi on s'attend. Quoi, voilà.
C'est pas le trac, c'est une tension.
Bah, en ce qui me concerne, non, mais je crois que Nicolas non plus. Enfin, il y a une appréhension, voilà.
Ouais.
Après, c'est plus un problème de trac. Petit à petit, on élargit le jeu, les choses se détendent, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension quand il doit y en avoir. Mais c'est très prétentieux, en fait, ce que je vais dire, mais c'est normal, après tout, je suis très prétentieux. Mm-hmm. Je suis beaucoup trop prétentieux, d'ailleurs, pour être un vampire, mais enfin, quand même. C'est-à-dire que... Enfin, en ce qui me concerne, très jeune, mes jambes
c'est
tremblaient.
C'est le mec de la pièce, pardon, je précise, parce que je voudrais pas croire que les gens croient que tout d'un coup, il part dans les jambes en disant je suis trop prétentieux pour être un vampire. On dit, tiens, qu'est-ce qu'il a dit? C'est dans la pièce.
C'est dans la pièce. Oui.
Merci Nicolas.
Ça me fait plaisir qu'il traduise ce que je dis, parce qu'on sait jamais. Voilà. Donc, quand j'étais très jeune, j'avais évidemment une trouille terrible. J'ai toujours une trouille terrible, d'ailleurs, mais au départ, j'avais la trouille du public. J'avais la trouille de ce qui était en face de moi. Et maintenant, c'est pas deux...
C'est la truie de vos partenaires.
C'est de moi dont j'ai peur. Est-ce que je vais être à la hauteur de ce qu'ils sont venus voir?
Pour ne pas décevoir.
Donc, oui.
Okay. Voilà. Bah, en tout cas, on peut vous rassurer, c'est loin d'être le cas.
Ça, ici, c'est pas notre souci.
C'est une soirée...
Non, je vois bien que c'est pas votre souci. Je vois bien ce qui vous intéresse.
Non,
qui vous intéresse.
Non, faites pas ça.
Je me souviendrai de presque tout.
On dirait ma femme, quand je fais ça, elle me tape
dessus.
L'histoire de deux papas, l'histoire de deux fils. Tout ça résumé en trois personnages portés par vous deux et par un jeune homme qui s'appelle Miguel van der Linden, j'espère que je prononce bien,
c'est ça.
Que je vois pour la première fois au théâtre, mais c'est trois générations en tout cas.
Voilà, parce que deux papas, deux fils, c'est pas... C'est...
Oui, il y a le grand-père, le père et le fils, mais oui. Donc ça fait deux papas, deux fils.
C'est pour le mariage pour tous, quoi.
Voilà, c'est sur... okay, non,
c'est un couple.
C'était pas ce que je cherchais. Tout ça mise en scène par Julien Boisselier, on va en parler jusqu'à midi et demi, parce qu'elle est drôle, elle est touchante, elle est émouvante, elle est intelligente cette pièce, et elle fait du bien. Petit tour de table parce qu'il y a des problèmes de communication avec les parents. Est-ce qu'on a tous eu un moment d'incompréhension avec son papa ou sa maman ? Ça a été le cas, Lisa Delmoitier. Est-ce qu'il y a eu des incompréhensions ?
Bien sûr, dans mes choix professionnels. Et tous les jours, en écoutant mes chroniques, je pense que mes parents se disent « Mais qu'est-ce qu'on a fait ?»
Tes parents savent que tu es là ?
Ouais, ils sont au courant. Ils me recherchent. Incompréhension de ma carrière.
Emma, bonjour. Ton papa que je connais, avec qui j'ai bossé à RTL.
C'est vrai, on l'embrasse. Je crois qu'on se comprend... On se comprend mieux avec mes parents depuis que je vis plus chez eux. Ouais. Et on se comprend c'est très ça. Bien, même à distance. Des fois, je dis rien et on se comprend quoi.
Donc, voilà. Moins vous voyez, mieux vous portez.
Voilà.
Je veux pas mettre la merde.
Pas de bol.
Leïla ?
Non, moi, j'ai une chance folle.
Zéro problème de communication ou d'incompréhension au bout de... Tu peux pas me comprendre, on n'est pas sur la même planète.
Non, vraiment pas.
Ok,
vraiment.
Tant mieux. Tom ?
Moi, pareil, on communique beaucoup avec mes parents. Il y a une fille que j'ai rencontrée qui m'a dit que c'était red flag d'appeler sa mère tous les jours.
Non.
Ben, je le
c'est la fille qui est red flag.
Ouais. C'est red flag. flag.
Oui, oui, drapeau rouge.
Oui, je vais peut-être pas rester là. Je savais pas qu'on parlait une langue étrangère.
Tanguy Pastoureau,
c'est pas red flag, quoi.
Moi, j'ai été élevé dans la lande bretonne jusqu'à l'âge de 20 ans par des belettes, et donc je n'ai appris à parler qu'à partir de 21.
Donc, que des problèmes de
j'ai communiqué tard avec mes parents, qui, du coup, tout s'est bien passé parce que ma crise d'ado était passée depuis longtemps.
Ok. Daniel ?
Oh, tu te doutes qu'il y a eu quelques soucis avec la famille. Mon enfance était une grande interrogation. Et,
les voilà, incarcérations, tout
ouais,
ça.
Tout ça, la police. Et...
Au-delà.
Moi, c'est sûr, je ne partage pas toujours leurs angoisses et le pessimisme. Il y a mon père qui me dit.
Bah non, moi, je les comprends.
Par exemple, ouais, c'est ça. Mais qui me dit donc tu laisses ta voiture regarder dans la rue ? Bah oui.
Ah, oui.
Ouais, donc s'il y a par exemple un moteur d'avion qui tombe et qui l'écrase, bah ouais, je vais prendre le risque. Ouais. Donc voilà, je n'ai pas toujours le même niveau d'angoisse.
Ah, oui, tiens. Et moi, j'avais une peur bleue de mes parents, en fait. Mm-hmm. Peur de dire trop de ce qui se passait dans ma vie.
Ah,
ouais.
Oui.
Non, mais alors, vraiment dans les périodes, tu sais, où tu prends la voiture, tu empruntes, parce que tu viens d'avoir ton permis, tu empruntes la voiture, et puis tu la rayes. Et donc tu veux pas dire.
Ouais.
Et donc, les problèmes de communication étaient plus sur le regard, le jugement, que est-ce qu'on peut tout se dire sur les histoires d'amour,
ouais,
sur la crainte de l'avenir, de qu'est-ce que je vais devenir, et ainsi de suite. Mais c'était...
La peur de dire la vérité.
Ouais, la peur de dire la vérité et la peur de décevoir aussi. La peur du jugement des parents. Et c'est un peu ce qui se passe aussi dans la pièce, parce que les rapports ne sont pas simples entre chaque papa et chaque enfant. Peut-être plus simple entre le grand-père et le petit-fils. En tout cas, quand on saute une génération, mais quand on est immédiatement, quand on est immédiatement le fils d'eux ou le père d'eux, il y a quand même des problèmes de com, que ce soit chez le jeune comme chez le plus adulte.
C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais le grand-père, en principe, avec les petits-enfants, ont tous les avantages et aucun des inconvénients des parents. Voilà.
Oui, parce qu'ils m'interdisent.
Je vous entends parler de vos parents avec effroi.
Vous avez eu un problème ou pas avec vos parents, déjà ?
Non seulement j'ai pas eu de problème, mais je l'ai dit déjà 20 fois, ma mère a fait l'homme et mon père a fait l'artiste. Donc j'ai eu deux rois et reines dans ma vie, donc toute ma vie je les regretta et je n'ai eu aucun problème
de communication avec vos parents.
Non, mais ôtez ce mot de votre bouche.
Pourquoi ?
On n'a pas de communication avec ses parents. On les aime pas, on a un rapport. La communication, c'est un mot qui ne signifie absolument plus rien.
On
n'a jamais
aussi
peu communiqué en parlant à ce point-là.
Non, mais je veux dire par là que dans la pièce, l'un des pères découvre certaines choses de son fils, des fils découvre certaines choses de son père.
Oui.
Si c'est pas de la communication, c'est de l'échange, de la transmission, appelez ça comme vous voulez. Mais,
communication. Pardon, on pourrait faire un petit bilan, donc communication. Non, red flag. Donc non.
Alors voilà. Ouais. Si vous Nicolas, avez d'autres, vous me prenez, je les relèverai.
Nicolas Briançon, vous avec vos parents ?
Oh là là.
Vous avez vu l'état dans lequel ce garçon.
Vu ce que ça donne.
C'est très, très étrange. C'était à la fois aimant, respectueux. Je crois finalement. Communication très compliquée avec ma mère qui essayait, je crois, de parler, mais qui voulait jamais parler des choses importantes. Qui restait tout le temps dans des choses un peu
surface,
extérieures, donc j'avais l'impossibilité jusqu'à
avec le côté je veux pas être intrusive aussi peut-être
à 94 ans mais jusqu'à 94 ans c'est resté une sorte de mystère bloqué dans son
rôle de maman
et mon père qui est mort quand j'étais très jeune. Mon père était un magistrat un peu austère. Enfin, d'apparence, et il n'y avait pas énormément de communication, mais je dois dire qu'il y a quand même eu trois gestes dans sa vie qui ont déterminé toute ma vie. Donc je pense qu'il y avait une communication secrète, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il m'a...
Un exemple ?
Il m'a emmené voir La Flûte Enchantée, le film de Bergman, qui a décidé de ma carrière, vraiment. C'est parce que j'ai vu ce film que j'ai... tout d'un coup débarqué dans le théâtre.
Et
Il m'a donné un jour un livre de Michel Déon, c'est le seul livre d'un roman de Michel Déon, me disant tu dois lire ça, et des années après je suis devenu le gendre de Michel Déon, qui a été comme moi, comme un substitut de mon père, donc c'était comme s'il avait fait créer une sorte de passage de relais avec le temps, et last but not the least, j'ai découvert une demi-sœur très longtemps après sa mort, qui est apparue dans ma vie, et qui a joué un rôle très important dans ma vie et surtout vis-à-vis de mon enfant. Et donc, c'était...
C'est touchant. Merci pour cette...
Voilà. Mais c'est des communications qui ne se disaient pas, qui ne se pratiquaient pas, mais qui...
Sûr.
mais qui ont existé.
Mais qui nous construisent. On est fait de tout ça, et on est fait aussi d'imbroglio, de non-dit. Il y a dans cette pièce des répliques qui sont d'une violence inouïe, mais qui font extrêmement rire. Il y a des rapports très tendus entre un père star, acteur, et c'est même avec cette table de maquillage, je ne sais pas si elle a un nom d'ailleurs, avec toutes ces ampoules autour des miroirs, comme on voit dans les films hollywoodiens, qui ouvrent et qui clôt d'ailleurs magistralement la mise en scène de Julien Boisselier. Mais ce père, donc star de théâtre, de cinéma, clairement avec une énorme renommée et peut-être une surcommunication à l'extérieur et une absence d'échange à l'intérieur de sa famille. On sent que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas parlé avec son fils, qui lui est un auteur en manque d'inspiration. C'est même plus problème.
Un manque de certitude, je dirais, ouais. Peut-être davantage encore que d'inspiration. Je crois qu'il n'a aucune confiance en lui, il est écrasé vraisemblablement par cette image.
Il passe sa journée en peignoir et
il a renoncé, quoi.
Renoncement. Il flotte.
Et puis il y a le fils qui lui est dans la fleur de l'âge, avec sa vingtaine d'années, avec zéro souci et même une ouverture d'esprit et une facilité à parler aux uns et aux autres et à s'intéresser finalement des trois. C'est peut-être lui qui s'intéresse le plus aux deux autres que l'inverse. On en parle parce qu'on a adoré cette pièce. L'écriture d'Alexis Macaire, elle est dingue, tellement elle est rythmée, drôle, intelligente, et on passe pas aussi bien par les rires que par les larmes, avec beaucoup d'émotion, et cette mise en scène de Julien Boisselier. Mais d'abord, voici Hold de la fan de nos invités, Pierre Arditi et Nicolas Bouillon.
Je suis fan de Pierre Arditi. Je suis allé sur internet pour connaître toute votre vie. J'ai dû me tromper dans l'orthographe en mettant Arditi. Je suis tombé sur un extraterrestre qui fait les peaux sexy. Je suis fan de Nicolas Briançon. Là je me suis concentré sur l'ordi, j'ai bien tapé Briançon. Et ben c'est fou, il y a une ville qui s'appelle comme vous, pile poil. Mais bon, moi je suis retourné voir les photos d'Iti à poil. Et vous êtes là pour Je me souviens. Je me souviens.
Vrai.
Ah ben mince, je sais plus. En tout cas, vous êtes là et ça c'est trop youpi. Est-ce que ça vous intéresse des photos coquines d'Iti? Je suis fan de vous, je vous demande pardon aussi, car j'ai découvert un truc chez moi que j'avais pas compris. Ma passion pour les extraterrestres hyper sexy, j'ai même téléchargé sur iPhone l'appli E.T. Appétit, 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 appétit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ressens des choses louches pour un extraterrestre sexy. Me gêne pas, me gêne pas trop durement, car vous le verriez dans sa lingerie. Oh, wow, wow, wow. Mais je fus surpris en m'attendant cette appli de voir que d'autres gens la suivent aussi. Bien sûr Daniel, bien sûr Tanguy et bien sûr Nagui, mais pas que, y a des gens qui ont du talent aussi. Arditi, 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 Arditi et Nico Briançon. Arditi, 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 téléphone maison. Moi je suis fan de vous, mais de la pièce aussi. J'espère vous la jurer dans le Nord pour voir Pierre Arditi. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous, avec lui qui c'est donc la bande originale.
En featuring Emma Beaujean.
Bravo.
Et Hold de la fan.
Absolument consternant.
Je ne sais pas.
C'est pathétique.
Vous les flattez.
Ça fait peur. Dit, putain, pourvu que je ne finisse pas comme ça.
Pierre Arditi, Nicolas Briançon et donc Miguel van der Nieden dans cette pièce. L'histoire, en effet, je reviens à ce gimmick, ce sont deux papas et deux fils sur trois générations, grand-père, père et fils, et tous ont des problèmes de communication. Ça commence d'ailleurs par dans un premier temps, l'annonce faite de l'arrivée du grand-père dans l'espèce de deux pièces miteuses. On se dit quand même qu'il est le frigo est pourri, il est vide, il vit avec des emballages de yaourt pas finis.
Enfin, on n'est pas sur une réussite.
On n'est pas encore dans le Diogène, mais on y a laissé aller. Oui, il y a un renoncement.
C'est ça.
Voilà, il y a un renoncement à la vie en général.
Et l'arrivée de ce grand-père, qui est une star, qui est connue et qui saoule.
Et qu'il n'a pas vu depuis 20 ans.
Son fils, voilà.
Ouais, à peu près.
Et il ne comprend pas pourquoi il redébarque dans
Oui, il y a quand même un gros, on va dire qu'il y a un gros passif entre les deux.
Il y a un contentieux.
Et donc, pourquoi il revient, qu'est-ce qu'il veut, et on met du temps à se trouver. Et alors, il vient, on peut le dire.
Il dit assez rapidement, il vient parce qu'il veut écrire un livre. On lui a commandé un livre, une bio de sa vie, son œuvre, sa carrière, et il veut sortir avec le menton dressé vers le ciel et la fierté, le torse bombé. Et comme son fils est auteur, il se dit, autant que ça soit toi qui l'écrive, comme ça, au moins, ça restera dans la famille.
De l'argent, en plus.
Voilà. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu.
Non, tout ne va pas tout à fait se passer comme prévu, mais on peut penser que le fait qu'il demande à son fils d'écrire à sa place cache peut-être quelque chose d'autre. Alors au fond, est-ce qu'il demande pas... Peut-être qu'il vient demander à son fils autre chose que d'écrire simplement sur son père.
Est-ce que c'est une manière pour lui justement de reprendre le contact en lui racontant sa vision de sa vie pour qu'il le comprenne?
Voilà, et en fait d'une certaine manière... ils racontent chacun à leur tour leur vie et leur rapport ou leur non-rapport. Voilà. Mais
et d'une méchanceté effroyable quand même, parce qu'ils s'envoient des couteaux.
D'une acidité assez forte, qui crée d'ailleurs le rire, ça honnêtement, parce que c'est une pièce...
Jamais la gêne, vous n'entendez pas le public à un moment donné faire « Oh !»
Oui, si, j'entends. Il y a comme c'est ça deux, trois passages, deux, trois passages qui sont vraiment... assez terrible.
Ah oui.
Et où les gens font.
Et ils jubilent. Ils jubilent.
Moi j'adore.
Vois, un des pires moments, une des pires tirades qui me balance dans la tête, je le vois. Et ils jubilent. C'est-à-dire que je vois son plaisir. Il le goûte, d'ailleurs, ce truc-là. D'ailleurs,
Vous voulez dire qu'il est aussi vachard que son personnage?
C'est le moment qu'il a su le plus rapidement. Cette tirade-là, il l'a su. Le troisième jour de répétition, il la savait par cœur.
Il a signé pour ça.
Il me l'envoie. Avec une espèce de jubilation, il prend son temps, il ménage sa sortie, c'est extraordinaire.
Mais ce qui est fou, c'est que Pierre, on a le sentiment dans les pièces que vous choisissez, celle écrite par Salomé aussi, et qui est renvoyée à votre propre couple et à ce qui pouvait se passer, que tout ce qui a écho, qui trouve écho dans votre vie, vous délecte comme une sorte de mise en abîme. Le fait même de démarrer par cette mise en scène extrêmement élégante et intelligente de Julien Boisselier, où vous êtes dos au public face à un miroir, face à votre image, cette image qui nous éclaire, parce que d'un coup, nous, on est aussi éblouis par les lumières de ce miroir. Tout est là, quoi. Tout est dit en une scène, c'est-à-dire je suis dos à vous, mais je me regarde et c'est regardez-moi.
Oui, bien sûr, il y a ça. Il y a une sorte de... Il dit lui-même, d'ailleurs, il est tellement narcissique qu'il faut partager ce narcissisme avec ceux qui vous regardent. Un acteur ne s'appartient plus, il appartient qu'à tous ceux qui le contemplent, comme dit Alexis Macquart. Ça n'est pas faux, d'ailleurs.
Alexis qui a écrit cette pièce pour vous, sur votre musique.
Il n'a pas écrit la pièce pour moi, il a écrit le rôle pour moi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Il a écrit la pièce pour
Nicolas. Je suppose qu'il a tout de même écrit le rôle de Nicolas Briançon pour Nicolas Briançon.
Alors, d'après ce que j'ai compris, Nicolas, mais vous pouvez me corriger, évidemment, il a écrit la pièce à votre demande et il avait envie de penser au personnage, j'avais
reçu une première pièce d'Alexis, que j'ai d'ailleurs mis en scène, qui s'appelait La maîtresse de mon fils, que j'avais montée avec François Vicentelli et Camille Lavabre.
Que vous connaissez, je crois.
Qui était une pièce que j'aimais beaucoup. C'est une institutrice qui convoquait un père de famille parce que son enfant, au cours préparatoire, alors qu'on lui demandait de dessiner une fleur, avait dessiné une fleur qui semblait à l'institutrice de forme phallique, et donc elle convoquait le père, et donc c'était très marrant parce que c'est bon, tout ça à quoi on est confronté aujourd'hui était exposé dans la pièce de façon très intelligente. Et j'ai beaucoup aimé l'écriture d'Alexis. Je trouvais ça assez rare, assez fin, assez écrit. Ce qui est un plus, je trouve, au théâtre, quand il y a une langue en plus derrière ça.
Et vous lui avez vraiment dit
Et je lui ai dit, vas-y, moi j'ai envie de te... Oui, j'ai envie, c'est important de, quand on a la chance de trouver un auteur, il faut essayer de le pousser. Et puis très vite, il a envoyé cette pièce. Et voilà, après on s'est mis en action, on a fait une lecture avec Pierre, qui a dit à la fin de la lecture...
Je reviens, oui.
Je la joue.
Ok, je reviens à ce que au point de départ sur le rythme, la musique, les répliques. Il y a des phrases, le fameux c'est consternant. On se dit ça ne même si vous l'avez rajouté, peut-être qu'il n'était pas dans la pièce. Tout est tellement
non,
vous.
Non, il y en avait un peu, mais il a dû s'inspirer de ce que je dis en général.
C'est-à-dire on a travaillé comme une création. C'est-à-dire Julien, on a travaillé aussi avec l'auteur en répétition tout le temps. C'est-à-dire on a coupé, on a rajouté, on a réduit, on a réécrit certaines choses. La fin est arrivée un peu. On ne finissait pas exactement comme ça. Et vraiment, et il a trouvé une idée absolument merveilleuse dans la situation et dans l'écriture. Non, c'est très agréable et c'est aussi ça qui est passionnant quand on fait une création. C'est-à-dire quand on joue un auteur vivant, c'est que le travail se fait aussi avec lui. Et pendant les répétitions...
À quatre personnages, finalement.
Oui. Et puis il est très... Alors, rendons à César, parce qu'il est très près de son texte, Alexis. Hein. Il n'aime pas... On a eu des...
Il n'aime pas trop qu'on change une virgule.
Il n'aime pas trop qu'on change une virgule, donc il y a eu des petits bras de fer, quand même. Mais il avait raison. Et il a raison de tenir sa ligne. Et encore une fois, c'est très réjouissant de créer un auteur de je ne sais plus qui m'a dit l'autre jour un auteur est né, mais je crois qu'un auteur est né, oui, avec Macart.
On continue d'en parler jusqu'à midi et demi, mais d'abord voici Lisa Delmoitier.
Ah oui.
Non, il n'est pas écrit une pièce comme ça, vous,
non,
contrairement à Alexis Macart.
Rapport au fait que mon papa à moi, il est gentil, hein. Il me dit pas que je suis une déception. Imaginez la gentillesse. Comment la gentillesse devient un mensonge? Bref, c'est un autre sujet. Et contrairement à votre personnage, Nicolas Briançon, mon père n'a pas changé de nom. Ce qui implique, rendez-vous compte, qu'il doit assumer tous les jours d'être affilié à une saltimbanque qui a écrit un jour une chronique sur France Inter intitulée « Attache remorque ou plug anal ?»
Wow.
Faut le porter quand même, hein.
C'est vrai.
Le nom. vous avez la référence. Intéressant, oui, c'est dit. On l'a dit, hein, vous jouez un père cruel doublé d'un acteur à succès. Nicolas Briançon, vous êtes donc son fils, un écrivain raté. Quelle expression ignoble, un écrivain raté. Ouais. C'est pas un écrivain raté, c'est un écrivain qui a écrit un seul livre. On peut pas juger sur un premier essai. Le premier livre, c'est comme la première crêpe ou le premier enfant. J'ai eu d'ailleurs mon grand frère au passage, qui fait d'excellentes crêpes. Non, il faut jamais s'arrêter qu'à un livre ou une pièce ou un film, vous y jouerez toute votre estime de vous et votre réputation. Non, il y a deux cas de figure. Soit vous écrivez votre premier livre et c'est phénoménal, auquel cas vous pouvez vous arrêter là, partir sur un succès comme J.D. Salinger, qui n'a écrit finalement qu'un seul véritable roman, L'Attrape-cœur, ou encore Jordi, et dur d'être un bébé. On ne fera pas mieux. Quoique je l'attends quand même, le moumou d'être un pépé. Bon, premier cas de figure, donc deuxième cas de figure, tu sors un premier écrit et tu te rends compte que c'est pas ouf. Pas fou. L'astuce est alors de noyer...
Pourquoi moi?
J'ai l'habitude de travailler avec différents publics. L'astuce est alors de noyer le poisson dans la masse en devenant chroniqueur en quotidienne sur France Inter. Plus personne ne se demande si Oldelaf, Emma, Tanguy ou moi écrivons bien. Les gens se demandent juste comment on tient. Quand je croise mes amis, ils me disent jamais « c'est bien ce que t'écris ». Ils me disent juste « ça va ». C'est génial, la prolificité a complètement évacué la question de la qualité. On n'a rien inventé d'ailleurs. C'est la même technique utilisée par les parents de familles nombreuses. Tu fais un seul enfant. T'as intérêt à ce qu'il fasse Harvard, où tout le monde pense que t'es un parent raté. Mais tu fais 13 gosses. T'es le parent de l'année si t'arrives simplement à les garder en vie. Voilà. Petit conseil, dilué dans le nombre. Et dans la pièce Paraditi, votre fils, vous l'avez gardé en vie, certes, mais ça s'arrête un peu là, niveau qualité de la relation, jusqu'au jour où vous lui demandez d'écrire vos mémoires. En général, quand ton père te demande ça, c'est un indice que lui, il arrive à l'âge où on la perd, la sienne de mémoire. Hein, c'est marrant, c'est comme si j'écrivais un bouquin sur les clés le jour où je perds les miennes. Particulier le concept. Mais sans spoiler, merci Daniel qui a compris avec. Après, c'est de la dentelle, l'humour. Hein. Moi, je suis une personne à la fois. Mais sans spoiler.
Moi, c'est bon.
C'est une démarche qui va rapprocher, même s'il est exprimé avec rancœur, avec des non-dits, des petites piques, des grosses saloperies. Un père et un fils qui règlent leur compte, mais au moins, c'est un père et un fils qui se parlent. Et ça, je crois que c'est quand même de l'amour. Bon, on parle de deux hommes d'un certain âge, d'un âge certain. Donc, niveau communiquer sur leurs émotions, tu sens que j'ai placé la barre assez basse. Oui, bon, bah déjà, ils s'insultent pas de PD autour d'un barbecue. Donc, pour moi, c'est de l'amour. Hein. Et c'est joyeux d'écrire des mémoires en famille, se plonger dans l'histoire de la génération avant nous. J'aimerais bien faire ça avec mon papa aussi. Et j'ai trop de chance parce que je peux même remonter plus loin dans la mémoire. Figurez-vous qu'un auditeur de l'émission a fait mon arbre généalogique.
Oh, wow, t'as la chance.
Alors, je vous rassure, c'est parce que c'est aussi un des moitiés. Sinon, ce serait un peu flippant quand même.
Ouais, ouais.
Lisa, je t'aime trop. Ton arrière-grand-père était chevalier, donne-moi ton ADN. Non, c'est un des moitiés. Et il s'avère qu'on est parents à la 7e génération, avec ce super auditeur, d'un certain Vincent-Joseph Delmoitier, qui s'est battu dans l'armée de Napoléon. Vous y croyez, ça ? Je suis belge, mais dans ma famille, quelqu'un s'est battu pour vous. Ah, s'il avait pu voir dans le futur la Coupe du Monde 2018. Peut-être aurait-il rejoint le bon drapeau. Enfin bon, c'est trop mignon cette histoire parce qu'ils se sont rencontrés avec mon papa et l'auditeur pour parler de tout ça. Et maintenant, mon papa m'envoie des emails avec notre histoire. Alors, entre ça et la pièce, ça me motive. Mon petit papa, peut-être bien aussi qu'un jour, je vais écrire son histoire.
Oh, joli. Merci.
Et puis, elle écrit bien, cette jeune fille.
Elle écrit bien, oui.
C'est
et
cher,
elle parle un peu vite, mais elle écrit très très bien.
Miguel van der Linden,
c'est
qui joue le
monstre sacré à côté,
qui joue le petit-fils, va avoir beaucoup plus de facilité à parler à son grand-père qu'à son père. Parce que justement, le rapport entre petit-fils et grands-parents, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la punition, on n'est pas dans l'éducation. Mais on peut se parler. Et d'ailleurs, il va lui balancer en très peu de temps beaucoup d'informations ignorées par son papa avant.
Il n'y a pas de contentieux avec lui. Il y a simplement, effectivement, il y a vraiment une tendresse profonde de sa part à lui pour le petit. J'appelle petit parce qu'il est encore petit.
Parce que vous ne connaissez pas son nom, surtout.
Et le petit, lui, a une sorte de confiance.
Oui, c'est ça, dans la pièce, vous ne connaissez pas le prénom du
petit-fils. Votre petit-fils. Votre personnage ne connaît pas le prénom de son petit-fils.
Non, oui. Non. Peu importe.
A priori.
Il est immédiatement.
Il a une absence.
Oui.
De plusieurs
années. Non, mais bon, c'est rien, ça.
20 ans.
C'est un effet de l'auteur.
Oui, mais ça fonctionne.
Je suis très content de te revoir. Je me souviens plus de son prénom. Non, mais ça va me revenir.
Ça fonctionne. Parce que
ils ont pas mal de choses à se dire.
Ben voilà. Voilà.
Tandis que avec le fils, ils ont aussi beaucoup de choses à se dire, mais c'est plus que c'est. Ils ont du mal à accoucher, quoi.
Non, mais puis au-delà de ça, le fait que le petit-fils se confie très facilement et très rapidement au grand-père flatte l'ego de ce grand-père en disant « Mais tu vois, toi, t'es même pas capable de faire attention à ton propre fils. » C'est-à-dire qu'il lui retourne l'agression de la mauvaise éducation en l'attaquant par le prisme de son petit-fils, qui est une violence inouïe.
L'enjeu, c'est d'être un bon père. Quoi. Qui est le bon père là-dedans?
Et qui est le bon fils?
Qu'on n'est jamais d'ailleurs un bon père? C'est compliqué d'être un père. Hein, c'est basé sur rien, ça se construit sur du vide. Faut changer son rôle tous les jours. Enfin, c'est une façon de parler.
C'est
pas moi qui parle comme ça.
Je me souviendrai de presque tout. Qu'est-ce qui vous a plu, Nicolas Briançon?
Chaque fils est, d'une certaine façon, le père de son père.
Le devient, en tout cas.
Ou le devient, oui, en tout cas. Il y a un moment
où on
devient, je crois, le père de ses parents. Ou la mère de ses parents. Et c'est un moment qui est patent, c'est-à-dire qu'il est très immature avec son propre fils.
Et très complice avec le petit-fils.
Alors, très immature avec son fils, très complice avec le petit-fils. Ouais. Et moi-même, je suis très immature avec mon fils. Et finalement, dans une attitude plus volontariste, plus responsable avec mon propre père. Ce qui est souvent le cas. Ce que la pièce évoque très bien, sans jamais le raconter, juste en montrant ces rapports entre nous et qui sont des axes, des changements d'énergie, de force qui se passent entre les êtres et qui qu'on n'explique pas toujours ou qu'on explique après si on fait une analyse ou une psychanalyse. Mais
c'est ça qui est fort, c'est que ça donne à réfléchir. C'est à la fois extrêmement drôle, vraiment, vous riez énormément. Et vous sentez aussi l'émotion, vous sentez aussi quand ça touche et qu'on retient nos larmes, ou on les retient pas, ce qui fut mon cas d'ailleurs, parce qu'il y a eu un moment où
les rires sont une réponse immédiate et divine. Les silences où on sent que le cœur se tord, c'est la même récompense, mais elle est silencieuse et pourtant elle dit tout.
Donc c'est joyeux de jouer dans une pièce qui permet justement, et c'est assez rare dans le théâtre français, de pouvoir passer comme ça du rire. On démarre presque de temps en temps sur comme un boulevard. On est vraiment dans une comédie pure.
Absolument.
Et tout d'un coup, en une fraction de seconde, on sent que il y a une sorte de silence qui se fait, il y a une émotion qui monte, et puis on rebascule et on repart. Et c'est très très joyeux de se promener dans tous ces tous ces registres.
Peut-être parce que c'est bien joué. Ça doit aider aussi.
Pierre Arditi. Ça dépend par qui. Pierre, ça,
je ne parlais que de vous, Pierre.
L'un
vous
de savez. Nous est exceptionnel.
Pierre Arditi, Nicolas Briançon et Miguel.
Demain, j'aurais pas invité.
Il n'est pas venu, c'est bête.
Sont à l'affiche au théâtre.
Miguel, si tu nous entends.
Parnasse, voilà, on te salue.
Un petit mimi.
Merci Amandine, Lourdes.
Salut les losers, salut, ça va bien?
Et toi?
Écoutez, ça va? Semaine dernière, j'en reçois un message d'un mec qui me dit: j'adore ce que tu fais, j'aimerais qu'on se rencontre, j'ai très envie de prendre soin de toi. Déjà, j'aime pas du tout l'expression prendre soin d'eux, on dirait qu'on parle d'un truc à imperméabiliser. Je suis pas une selle en fait, Guillaume, merci. Et en plus, après, il rajoute: et je t'avoue que je suis un peu intéressée par la fame. J'ai répondu: alors en termes de fame, j'ai des plans crayons, de papier, Novotel, et éventuellement, je peux t'avoir un petit chocolat en plus au wagon-bar avec ma carte grand voyageur. J'avais envie de lui dire: écoute-moi bien, espèce de fomblard. Pour te dire mon niveau de notoriété, le week-end dernier, je me suis fait refouler d'une boîte qui s'appelait Le Dernier des Moritos. Je suis arrivé à 4h30 avec la franche grasse, le videur m'a regardé, il m'a dit: pour le ménage, c'est pas avant 5h15. Wow. J'ai dit: non, mais je suis chroniqueuse à France Inter. Avec Émile et Images en fond, il n'entendait rien. Il m'a dit: l'Inter, c'est au prochain rond-point, il ouvre à 10h le dimanche. Surtout que le gars, quand il m'écrit ça, moi je suis dans un Ibis budget. Et franchement, quand tu dors dans un Ibis budget, c'est pas que t'as l'impression d'être en prison, mais quand même un peu celle d'être en cavale. La seule raison pour laquelle ils ont pas mis les toilettes sur le palier, c'est que le palier, c'est la rocade. Impossible de dormir. Il y avait un bruit blanc qui s'arrêtait jamais. Au début, je me dis: j'ai du mal à appuyer sur le bouton de la chasse d'eau. Je vais vérifier, même pas. Je me dis: bon, bah c'est les canalisations. Moi qui adore m'endormir avec de la musique classique, ce soir, c'est la symphonie des chiottes. Au bout d'un moment, je me rends compte que c'est une soufflerie qui fait autant de bruit. La soufflerie, elle soupire d'avoir été posée là, en fait, elle en peut plus. Ibis Budget, c'est le seul hôtel où tu te demandes si tu peux faire le check-out avant l'heure dite. Tous les murs sont vert pomme, comme dans les maisons que les gens ils arrivent pas à vendre tant que Stéphane Plaza vienne coller des stickers de lustre 18e siècle dans leur salon entre deux violences conjugales. Et en parlant de violences conjugales, comme j'étais un peu trop bien dans mon Ibis Budget, je me suis dit: tiens, je vais regarder le docu Netflix sur Bertrand Cantat.
Ah. Ouch.
Et en fait, c'est pas un documentaire, c'est surtout un tuto sur comment fonctionne une société féminicide. Et je peux te dire que quand tu regardes le documentaire sur Quentin, toute seule dans un Ibis Budget, adossée à la gare de Poitiers, le soir de tes 37 ans, après avoir bidé dans une zone industrielle, faut avoir l'air insolite pour pas te jeter sous le corail intercité de 6h58 en direction d'Agen. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, moi j'étais ado, j'écoutais Damien XVI en lisant du Baudelaire dans le noir, du coup je voyais rien parce que j'étais dans le noir, et j'avais adhéré à l'idée des amants maudits, des rockstars sous fond d'alcool, ils se sont battus, elle s'est cognée. Mais je me souvenais aussi qu'en termes de chiffres, on avait beaucoup plus entendu le nombre d'hommes avec lequel elle avait eu des enfants que le nombre d'heures où il l'a laissée moitié morte sans lui porter secours.
C'est vrai.
Comme si la vie d'une femme aux mœurs légères pesait moins lourd que celle d'une bonne épouse. Et les médias lui ont trouvé des tas d'excuses. Le mec est un écorché vif, un amoureux fou. C'est limite si on n'a pas entendu: non mais attendez, il est bélier ascendant lion Bertrand en fait. Hein, forcément, il est impulsif. Ou encore: non mais ils étaient dans un Ibis budget, c'est le bruit de la soufflerie, ça un crime passionnel qu'ils ont dit. Ça, tu l'entends dans la bouche de tous les médias au moment des faits. Un crime passionnel. Le mec lui a mis 19 patates. Le gars a des paluches de la taille de ses mensonges avec une chevalière toutes les deux phalanges. Déjà, tu te prends ne serait-ce qu'un revers, t'es dans les cordes. 19 patates. Un crime passionnel? De quelle passion on parle, en fait? Non, parce que 19 patates, à part la passion du Free Fight, je vois pas, quoi.
Bravo.
19. Et si vous me permettez, on va compter jusqu'à 19, juste pour qu'on éprouve ce que ça représente, 19 coups dans le visage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et pour rappel, il y a eu 36 féminicides depuis le début de l'année en France. On n'a pas le temps de compter jusqu'à 36, mais vous pouvez le faire. Femme, vie, Ibis style. Merci de m'avoir écouté.
Bravo. C'est la bande originale, on se retrouve juste après Mathieu Bogarde qui nous prévient: il faut toujours écouter son corps.
Toujours l'écouter, c'est meilleur. vérité n'a jamais tort. Il faut toujours écouter son corps. Ne pas être sourd, pas que tu ignores. Quand il dit il faut courir, quand il dit il faut dormir, ou courir, ou dormir, tout ce qu'il a à te dire. Aussi. Toujours bien écouter s'il frémit, s'il s'emballe, s'il s'affole ou s'il ralentit, somnole. Il faut toujours l'écouter, ça oui. Ne pas le nier, à mon avis. En deux mots, il faut tendre l'oreille, c'est tout. Courir. Quand il dit il faut dormir, quand il dit il faut courir, quand il dit il faut dormir.
Il faut toujours écouter son corps et pas celui des autres, hein, Daniel. Mm-hmm. C'était Mathieu Bogarts qui nous le dit dans la bande originale de Pierre Arditi et Nicolas Briançon.
Ah, si je commence à écouter mon corps, la conversation va être très longue.
Il y a de la musique dans cette pièce avec Pierre Arditi, Nicolas Briançon et Miguel van der Linden. Et il y a une chanson, évidemment.
Oh, ah, c'était les...
On ne dit pas à quel moment cette chanson est diffusée, mais c'est extrêmement drôle d'avoir l'idée de parler de cette chanson alors qu'il n'est pas du tout ch'ti, en l'occurrence, votre personnage.
Non, pas du tout.
J'ai proposé qu'on sorte d'ailleurs la chanson chantée par Pierre Arditi, Pierre Bachelet. Et je ne désespère pas avant la fin de la représentation.
Très bien. On ne lâche rien.
Un petit merchandising avec ce.
C'est dommage parce qu'on pourrait demander à Nicolas Briançon et aux petits qui pourraient venir exprès pour ça de chanter tous les deux ceux qui font dans la pièce un séisme culturel qui est cette chanson chantée par eux deux, dont on se souviendra. C'est un peu le ventre mou de la pièce.
C'est une chanson qui à la base est émouvante, mais qui devient une vanne chanson. Voilà, exactement. Petits enfants, grands parents, les relations intergénérationnelles. On en parlera avec Viviane Coves-Masfetti, qui sera notre invitée. Mais d'abord, la musique dans vos vies, Pierre Arditi. Vous écoutiez en 87. John Coltrane et le jazz, et en 87, Leïla, dans la vie de Pierre Arditi.
C'est une razzia en 87, Pierre Arditi. Molière du meilleur second rôle pour La répétition ou L'amour puni. Un César du meilleur second rôle pour Mélo d'Alain René. Et un 7 d'or aussi. 7 d'or du meilleur interprète pour un téléfilm Le parfait amour de Jean-Pierre Marchand.
Ouais.
C'est une reconnaissance absolue sur tous les plans, en fait. Tout le monde s'aligne la même année.
Oui, ouais. Visiblement.
Est-ce que ça fait prendre. Ça donne des petites sensations, je ne sais pas, de.
Ça donne
on est très
des sensations.
De soi,
des sensations bien longues. Il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui aiment les médailles, ceux qui ne les aiment pas. Bon, moi, en tout cas, celles-là, je les aime bien parce que c'est une reconnaissance des miens. Voilà, de mes pères, P-A-I-R-S. Voilà. Donc,
On se dit pas c'est trop, on se dit pas c'est trop.
Non, non, c'est pas trop. Non, 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 il y en a jamais assez.
Non, mais on se dit pas c'est trop.
Vous remarquez quand même que les deux premières récompenses dont vous avez parlé sont données pour des seconds rôles.
Ah oui, mais bon.
Alors, le Molière du meilleur acteur, après 60 ans de carrière, je ne l'ai jamais eu, mais j'ai eu le meilleur acteur au cinéma, ce qui est curieux.
Mais ça reste le jeu du comédien et de l'acteur.
Oui, oui, non,
non. Si c'est un premier ou un second rôle. Non, mais c'est pas le nombre de lits.
Dans 20 ans, Molière d'honneur, Pierre.
Oui, ou alors sur ma tombe.
Non, ouais.
Voilà. Non, non, mais si.
Et c'est d'ailleurs cette mise en abîme qu'il y a dans la pièce de théâtre, aussi beaucoup de nominations et...
Oui, oui, oui. Beaucoup de nominations et une seule, malheureuse récompense.
C'est dit dans la pièce.
Non, c'est dans la pièce, ça, oui.
Comme quoi, Alexis Macquart l'a écrite entre guillemets, au hasard, évidemment. Pas du tout pour vous, Pierre. Dans cette même période 87, Nicolas Briançon, vous écoutiez l'excellent...
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins pour que je te dise je t'aime.
Sublime chanson. Il y a une mode, et tant mieux, du retour des textes de Reggiani, de son interprétation.
C'est merveilleux.
C'était toute génération.
Un acteur merveilleux, une voix merveilleuse, un interprète merveilleux. Cette chanson me fait monter les larmes aux yeux en 20 secondes. Voilà, j'ai choisi cette année-là, mais j'ai toujours écouté Reggiani tout le temps. Ça revient de temps en temps. Il y a des périodes, j'ai des périodes Reggiani où tout d'un coup je réécoute un album entier en me disant de chaque chanson. J'ai réécouté hier une chanson qui s'appelle À ma fille. Qui me transporte qui et en même temps je trouve que c'est très joyeux d'écouter des chansons tristes, c'est très bizarre, les chansons tristes me remplissent d'un bonheur absolu.
Dans ces années, Leïla...
C'est Jean Marais, vous êtes son assistant, et très rapidement...
Voilà, il le tient bien.
Il limite très bien.
Mais au bout de peu de temps...
Écoute, tu étais tellement... tellement... passionnant.
Cette voix de vieux chat, j'adore. Et il vous demande de jouer.
Il l'a fabriqué lui-même. Il le racontait puisque Jean Marais dans ses premiers films, on l'entend avec une voix très un peu dans le nez comme ça, un peu nasillarde, etc. Il avait dit qu'il détestait sa propre voix, qu'il s'était mis à fumer tardivement 2 paquets de clopes par jour, qu'il a tenu jusqu'à la fin de sa vie pour casser sa voix, et que sa voix est devenue cette chose de la fin là.
Et très rapidement, il vous demande de jouer en fait.
Oui, au bout de, en fait, je vais le voir pour être son assistant, parce qu'il cherche un assistant mise en scène, et j'arrive chez lui dans son petit studio à Montmartre. Il avait sorti, c'est parce qu'il faisait la mise en scène, les décors, les costumes, ses plans, ses trucs. J'étais assistant de fête, et puis au bout de 10 minutes, il m'a dit, mais ça t'amuserait de jouer le rôle. Alors je dis, ben oui. Il m'a dit, comme ça m'évite de chercher. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire, cette confiance, tout d'un coup, donnée à un inconnu.
C'est un coup de bol. C'est un coup de bol. Voilà, pas pour tout le monde, hein, bien sûr, mais c'est un coup de bol.
Et c'était... c'est génial de croiser jeune, quelqu'un qui vous donne cette confiance et qui vous...
On se rend compte du mythe, du personnage, de l'image.
Maintenant, oui, à l'époque, pas du tout. Ouais. À l'époque, bien sûr. Je m'en suis rendu compte le soir de la première de cette pièce de Cocteau qu'on jouait, qui était Bacchus, quand il est rentré en scène. Parce que je commençais la pièce avec celle qui jouait ma sœur, Cyril Godin, où on faisait les enfants, et tout d'un coup, Jean arrivait. Et on a créé la pièce au Festival d'Anjou, donc il arrivait par le pont d'un château, comme ça. Et j'ai senti... Je crois qu'on était investis en situation avec ma camarade, mais j'ai senti que toute l'attention du public, pendant qu'on était en train de jouer... Tout d'un coup, se focaliser sur lui qui rentrait dans le fond et tout d'un coup, je l'ai regardé, je l'ai vu en scène, et je me suis dit, waouh, tu joues avec Jean Marais. Et c'était l'enfance, c'était tous les trucs de KPDP que j'avais vus, c'était tout ça qui revenait, un peu comme quand je joue avec Pierre Arditi.
Vous aimez bien jouer avec les personnes âgées, en fait.
Bon, merci.
Non, je parlais de François Berléand, bien sûr.
Je pensais qu'elle était délicieuse. C'est une peste.
Ah, enfin, c'est dit sur cette antenne.
Enfin.
Viviane,
ça me détend.
Viviane Covès-Masfetti nous a
rejoint. Ce que dit mon camarade de Briançon sur Marais. Dit sur Jean Marais, c'est... Je n'y étais pas, mais je suis certain, pour l'avoir croisé dans ma vie sans avoir pu jouer avec lui, il y avait une...
Bon, il y avait une présence absolument divine, quoi, avec des gens comme ça.
Ouais, une aura.
Oui, ouais, une aura. Est-ce qu'il rentre et puis.
Il rentre dans un restaurant, tout le monde arrête de manger.
Le monde s'arrête pour le regarder. C'est ça, ouais. C'est comme ça.
Ouais. Voilà. Viviane, donc, psychiatre qui a publié Être grand-mère aujourd'hui aux éditions Odile Jacob. les rapports entre petits-enfants et grands-parents sont plus faciles qu'entre enfants et parents?
Alors, évidemment, ça dépend. Ça dépend de ce qui se passe entre les parents, ça dépend de ce qui se passe avec les grands-parents. Moi, je pensais qu'on allait parler des grands-pères, et en fait, je prépare un livre sur les grands-pères, donc là, je viens d'interviewer 32 grands-pères, justement, et donc ça me donne un peu une vision. Alors, forcément...
Mais alors, qu'est-ce qui change? On est plus dans la complicité que dans l'éducation, on n'est pas dans les interdits, on est dans la connivence?
Ça, c'est clair. La plupart des grands-parents ont parfaitement compris qu'ils ne seront pas dans l'éducation, mais dans le plaisir. Et
c'est pas leur rôle de dire non, ne fais pas ci, ne fais pas ça.
Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas, hein, mais enfin, ils sont conscients que...
Non, ils laissent passer, ouais.
Voilà, ils sont conscients.
C'est eux qui filent les bonbons.
Ils incitent même à faire le contraire, en disant, chez moi, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est génial, d'ailleurs.
Voilà, pas toujours, mais en tous les cas, c'est sûr que le message est passé, qu'ils ne sont pas là pour éduquer les enfants. Et de toute façon, en une génération, le regard sur les enfants a complètement bougé. Enfin, c'est très frappant. Si je parle des grands-pères, par exemple, une des questions que j'avais, c'est le changement du rôle des hommes entre les grands-pères et les pères aujourd'hui. Et donc, je voulais les interroger sur leurs fils, leurs gendres. Et c'est pratiquement unanime. C'est-à-dire, aujourd'hui, les fils, les gendres, ils n'ont pas forcément envie de faire une carrière. Ils ont envie de vivre, de voir leurs enfants, de s'en occuper. Et là, les grands-pères disent, quand même, ils pourraient peut-être un peu, moi qui me suis donné beaucoup de mal pour arriver là où je suis et faire une belle carrière, eux, ça a l'air de les laisser complètement indifférents.
Oui, mais ça c'est la société. C'est-à-dire...
Absolument. Et donc ça se reflète.
Prenons
dans
le temps de vivre
de
plutôt que de le passer à travailler ou à gâcher sa vie.
En tous les cas, ça se reflète beaucoup dans ce qui va se passer avec les petits-enfants.
Est-ce que les rapports, les confidences doivent finir un jour par arriver entre parents et enfants? Est-ce que les non-dits, les conflits larvés, cachés, doivent mécaniquement un jour sortir?
Alors, le mécanique, je ne vous suis pas.
Ok, non.
Je veux dire, psychologiquement, même au sens, j'ai bien compris,
c'est au sens figuré. Est-ce que c'est un soulagement que les choses soient dites?
Pour qu'elles soient dites, il faut qu'elles puissent être dites. Le problème dans les questions que je posais, c'est l'intimité. C'est-à-dire, pour pouvoir se dire des choses, il faut de temps en temps être seul. Si on n'est pas seul, par exemple, avec ses petits-enfants, c'est difficile de construire une relation où on va pouvoir se dire des choses. Et que les grands-parents disent aux petits-enfants des choses en court-circuitant les parents, je pense que c'est un petit peu compliqué. Il faut voir que les grands-parents, ça passe beaucoup par les parents. Si les parents ne sont pas d'accord que vous ayez des relations avec vos petits-enfants, ça ne va pas arriver. C'est très difficile.
Dans la pièce, il y a des règlements de compte entre...
Oui.
tu ne m'as pas... les reproches que peut faire un fils sur tu n'as pas été un bon père, et comme le père peut dire à son fils, tu n'as pas été un bon fils, parce que la question peut se poser aussi.
Oui, mais enfin, si vous voulez, la pièce, ça me fait un peu penser à ce qui se passe avec Adolescence. Bon, la pièce, c'est une pièce. Moi, je n'ai fait que la lire, j'espère beaucoup la voir d'ailleurs. Je l'ai trouvée extrêmement drôle, très intéressante. Il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas la vraie vie. Enfin, il y a des côtés un peu de la vraie vie, mais fondamentalement, c'est quand même un grand-père très particulier, avec un fils très particulier et un petit-fils aussi. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se joue. Ça serait peut-être bien d'ailleurs que ça se joue comme ça, parce qu'au moins, il y a de l'humour. Et dans la vie, il n'y a pas toujours, tout le monde n'a pas la chance, comme vous tous autour de la table, d'avoir un humour percutant. Enfin, je veux dire, parce que l'humour, ça met de la distance. Ça serait justement une voie possible. Mais la réalité des familles est
pas forcément. Vous êtes psychiatre, est-ce que vous encourageriez n'importe quel enfant à un jour dire les yeux dans les yeux s'il y a eu un problème, s'il y a eu un souci, ou en tout cas dire la vérité à ses parents, ou c'est passé, c'est pas la peine de d'ouvrir des plaies, c'est pas la peine de remuer la merde comme on dit, et il faut laisser faire les choses?
Alors en fait, toute vérité est pas bonne à dire. Le problème, c'est le contexte. C'est-à-dire, sans compter que vous pouvez dire des choses que les gens n'entendent pas. Vous pouvez dire, cache à quelqu'un quelque chose et en fait, il n'entend pas parce qu'il ne peut pas l'entendre.
Oui, mais si ça vous fait du bien de le dire, Est-ce que c'est pas aussi important de dire parfois à ses parents ce qu'on ressent, quand bien même on sait qu'ils vont peut-être pas l'entendre,
si
mais au moins
mal, si ça fait du mal à l'autre.
Non, mais alors ça c'est autre chose. Mais si toi ça te libère aussi d'une douleur d'avoir dit voilà, moi j'ai traversé ça, je l'ai mal vécu. Peut-être que tu peux pas l'entendre, mais j'ai besoin de le dire. Et maintenant c'est derrière nous, c'est passé.
Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où effectivement, ça se passe comme ça. Mmh. De toute façon, si quelqu'un a envie de le dire, il va le dire. Après, je pense qu'on sous-estime effectivement les conséquences. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on l'a dit que l'autre va l'entendre. C'est pas parce qu'on l'a dit que quoi que ce soit va se régler. Ça peut même être le contraire. Enfin, c'est compliqué. Maintenant,
Et puis, on n'est jamais le parent parfait. On commet de...
Ah non, bah, ça c'est clair. Hein. Ouais. Ni le grand-parent parfait, ni l'enfant parfait. Là, il n'y a pas de problème. Le non-dit, c'est aussi quand même une forme de poison, effectivement. Oui. C'est-à-dire, tout le monde sent quand il y a un non-dit. Enfin, moi, je le vois dans des familles un peu compliquées. L'enfant sent qu'il y a quelque chose de bizarre. Les parents, eux, par rapport à leurs propres parents, parce que vous vous posiez la question, est-ce qu'on se construit sur plusieurs générations ? Bien entendu, on se construit sur plusieurs générations. Que le grand-père soit là ou pas là, qu'il soit décédé, qu'on ne l'ait jamais vu, de toute façon, il existe. Son ombre est là. Il ne peut pas être... qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, il existe.
Et il y a même les secrets de famille, en plus, qui peuvent venir.
Voilà, mais ils se sentent. Enfin, je pense que quand il y a quelque chose, ça se sent.
Non, parce qu'on ne dira pas lequel, mais il y a aussi quand même un secret de famille qui pèse autour de ces trois personnages dans la pièce. Je me souviendrai de presque tout. Merci beaucoup Viviane Coves-Masfetti d'être venue. Je rappelle que vous signez Être grand-mère aujourd'hui aux éditions Audi Jacob et à suivre donc Être grand-père.
Absolument, merci, le grand virage.
Voici l'hommage d'Emma Beaujean.
Hello. Bonjour Pierre, bonjour Nicolas, bonjour tout le monde.
Ça va
alors,
se gâter là, je le sens.
Oh là là, attention, ça devient nuageux. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage au manteau. Alors là, chez vous, vous vous demandez si vous avez bien entendu, un hommage au menton. Non, 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 même si malheureusement ils tendent à disparaître derrière les barbes de hipsters et autres salafistes, comique de mots. Au mouton, elle a dit, bah, évidemment que non, comique sonore, adora mouton, plutôt crevax, comique. Ah. Engagé. Et alors, hommage à quoi ? Comique trop long, car sous-payé. Alors, j'ai dit hommage au manteau, car il est temps de rendre hommage à ces grands héros de l'ombre qui se prennent toutes les intempéries à notre place. Pluie, neige, vent, vomi de Lisa Delmoitier à la fête de rentrée de la bande originale. Ah, oui, oui. Et surtout, moi, je rends hommage au manteau pour une raison simple. J'ai découvert ça, le concept des vêtements chauds, en arrivant en métropole, puisque j'ai grandi à La Réunion. Et alors, Emma, c'est une raison pour faire une chronique dessus ? Ça va être quoi la prochaine ? Une chronique sur les petites bites ? C'est pas impossible, mais il faut vraiment que j'arrête de parler de la fête de rentrée de la bande originale.
Oui, s'il te plaît. Ouais.
Alors, en découvrant les manteaux, j'ai aussi découvert une partie de la vie. J'ai découvert un climat, j'ai découvert une manière de s'habiller et j'ai développé une fascination pour cette pièce. Je vous avoue que c'est même devenu un objet de fantasme. Une fois, j'ai fait une surprise à un gars, je suis arrivée chez lui, nue sous un trench. Alors, sauf que j'habitais en banlieue, genre banni du lieu, vraiment. Et c'était un petit peu compliqué, j'ai dû faire 4 changements, la chatte à l'air. Il y avait le clébard d'un punk à chien qui me reniflait. Il m'a appelé croquette pendant tout le trajet. Et sans parler des courants d'air, j'ai appris qu'on pouvait prendre froid par en bas ce jour-là. Alors en plus, c'était complètement cramé que j'étais à poil. J'ai donné des très mauvaises idées à tous les pervers de la ligne 9. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je demande pardon publiquement à toutes les femmes de France. Car ce jour-là, j'ai donné naissance au premier frotteur de l'histoire. Et non, petit prank historique, le premier frotteur, c'est arrivé en même temps que le premier homme. Le manteau, c'est un allié et c'est la seule pièce de mode que tu payes pour cacher tes autres vêtements que t'as acheté. Ouais. C'est fou. Idée, hein, propale, vous mettez 600 euros dans un bon manteau et le reste, Emmaüs. Le manteau, c'est parfois sur lui qu'on trimballe un certain nombre d'affaires. C'est presque un sac à main de substitution. Et quand l'automne revient, on y retrouve parfois des objets qu'on y avait laissés figés dans le temps. Une place de concert, un chewing-gum, une capote usagée. Cette semaine, en récupérant un vieux manteau, j'ai retrouvé un billet. Alors pas un billet de 5, pas 10, mais bien 20 euros. Wow. Ça fait trop plaisir. Alors oui, juste, j'explique pour Nagui, pour nous trouver 20 euros, en gros, ça serait comme si toi, en passant ta Canada Goose le mois prochain, tu retrouvais dans les poches des actions titres d'une société de production internationale et hautement cotée en bourse. Imagine le délire. Moi, j'ai pas retrouvé une société cotée en bourse, mais j'ai retrouvé une biscotte cotée en croûte. Excusez-moi, pardonnez-moi, vraiment. J'ai dû prendre froid dans mes neurones cette fois. Non, en vrai, je peux pas me plaindre du froid. J'ai pas le droit. Moi, j'ai un toit et j'ai de quoi me réchauffer. Alors, je rends hommage au manteau, mais je pense surtout à ceux qui n'en ont pas. Quand je suis arrivée à Paris, que j'enchaînais les petits boulots, que j'étais étudiante, j'arrivais pas à payer mon appart et ça m'est arrivé une fois, une seule nuit, de dormir dehors avant d'être hébergée par des potes. C'était la nuit la plus dure de ma vie alors qu'elle n'a duré que 7 heures. Et je pense aux gens pour qui ça va pas durer, continue depuis plus de 30 ans. Et je rends surtout hommage à celles et ceux qui aident vraiment ces gens-là. Alors à ceux qui mettent des manteaux, oui, mais surtout à ceux qui les prêtent. Merci de m'avoir écouté.
Jolie Emma.
Là, je dois dire un truc, c'est que c'est pas consternant, c'est un séisme culturel.
On en est là.
Pas tout à fait la même chose.
La fracture.
Avec plaisir. Avec plaisir.
Tanguy, de quoi vas-tu nous parler ?
Je vais vous parler de ces petites peluches à la con que j'ai cherché tout l'été à cause de ma nièce qui en voulait les laboubous, mais aussi les lafoufous, les faux laboubous. Vous allez tout comprendre.
Ok, merci. Pierre Diti et Nicolas Briançon seront nos invités jusqu'à midi. Le meilleur de la bande originale, ouais, avec la cadeau d'Adi, Daniel Morin, c'est reparti.
Eh oui, on est gâtés aujourd'hui, ce sont Pierre Arditi et Nicolas Briançon, nos invités.
Ça se passe comment le sevrage, les gars? Ça va?
Au théâtre, mise en scène par Julien Boisselier, aux côtés de Miguel van der Linden, nos invités Pierre Arditi et Nicolas Briançon portent et donnent une dimension à ce texte d'Alexis Macquart. Alors, je n'ai fait que voir la pièce et je ne l'ai pas lue, donc je ne me rends pas compte, entre guillemets, de ce que vous en avez fait par rapport à ce qui était écrit. Mais tout fonctionne tellement bien dans la drôlerie, dans la méchanceté, dans l'émotion, dans les rapports humains. Et même si on a bien compris, c'était un travail à quatre. Finalement, avec Julien et Alexis, vous-même, vous avez apporté sûrement ce que vous portiez dans ce personnage. Quand on interprète des rôles comme ça, on demande à l'auteur ce qu'il a voulu dire ou on l'interprète avec ce que l'on pense devoir porter comme, comme message, comme valeur ou comme intention.
Oui, alors je vais prendre une phrase de Frank Capra, qui est un grand metteur en scène américain, oui, qui disait « Si vous avez un message à faire passer, adressez-vous à la poste. » Voilà, donc je suis totalement d'accord avec cette version des choses. Il n'y a pas de message, on incarne ou on n'incarne pas.
Oui, mais l'intention, par exemple, dans une phrase, vous pouvez vous dire « Là, je pense qu'il est méchant, là, je vais le faire comme ça. » L'intention n'est pas forcément dans les didascalies.
Non, si. Les didascalies, de toute façon, il ne faut jamais les lire parce que ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Les didascalies ne servent absolument à rien.
Si l'auteur...
Prenez les didascalies dans les pièces de Feydeau, c'est une plaisanterie.
Il y a le nombre de fois où les portes claquent.
Mais non, c'est autrement. On incarne, donc on peut proposer, l'acteur propose des choses, le metteur en scène soit prend ce que vous proposez, soit l'enrichit.
Pierre, pardon,
soit
excusez-moi, je ne suis pas acteur, mais s'il est écrit, voilà,
j'avais bien compris, oui.
Si une phrase est dite et qu'en dessous, avec un petit sourire en coin, ou avec colère, ou avec méchanceté, ou avec machin, l'intention compte. Vous pouvez pas me dire, ça
oui,
ne joue
bien
pas.
Bien entendu, mais elle est décidée, cette intention.
Eh ben, elle est dans les didascalies.
Non, les didascalies, c'est nous.
C'est qui cette
C'est nous qui décidons. C'est nous. Parce que vous vous rendez bien compte que quand on décide à l'avance que de toute façon ce sera joué comme ça, bah c'est pas la peine à ce moment-là de commencer à travailler.
Mais donc
ça
vous pouvez changer le sens totalement de ce que l'auteur voulait apporter.
Absolument. On peut changer le sens, mais on peut aussi changer la manière d'incarner ce qu'on nous demande d'incarner. Okay. Rien n'est décidé à l'avance.
Et donc quand
et
on joue.
Et la preuve même, c'est que. Quand on parlait tout à l'heure de notre première impression du public quand il vient nous voir pour la première fois, quand on joue devant lui pour la première fois, au bout d'un moment, c'est le public qui nous explique comment on doit jouer. Voilà, c'est comme ça. C'est étrange, mais vous ne le savez pas, mais vous nous dites vous-même comment il faut qu'on joue, en partie en tout cas comment il faut qu'on joue. Et on le découvre en même temps que vous. C'est comme ça. Les didascalies, on peut les foutre à la poubelle, ça n'a aucun intérêt.
Est-ce que je peux tempérer cette réponse très légèrement
absolument.
En disant que ça aide à lire. Ça aide à lire une pièce, une didascalie. Ça aide à comprendre une pièce quand vous la lisez pour la première fois, parce que tout d'un coup, il y a beaucoup de mots. Et donc, ça met un peu d'air dans la lecture et ça donne des indications. Mais
on peut figurer les situations aussi.
Oui, absolument. Et après, à partir de là, c'est effectivement le jeu, l'interprétation et puis le metteur en scène. Il se trouve qu'on a été vraiment dirigé, il faut reconnaître.
Mais lui, il n'a pas tenu compte des didascalies, hein, Julien Boisselier.
Non,
c'est normal. Acteur studio, première semaine, donc il n'a pas bien compris, il n'a pas saisi encore comment ça se passe tout ça. Alors...
Mon chaton.
Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
quand je pense que ce serait mon successeur, bon, je dis ma gueule.
C'est toi qui l'as nommé.
C'est rare au théâtre de passer des rires aux larmes comme ça. C'est rare au théâtre, dans ce que vous lisez, de ce que vous recevez, et peut-être même de ce que vous allez voir chez vos camarades de jeu. L'écriture d'Alexis Macart, si on peut, en quelques...
Alors moi, je trouve que c'est rare dans le théâtre français. C'est très courant dans le théâtre anglo-saxon, mais pour des raisons quasiment historiques, les Anglais ont un théâtre totalement libre, sans règles. Shakespeare n'a aucune règle, et donc il mélange en permanence. Dans ses tragédies, il y a de la farce. Dans ses comédies, il y a des moments de poésie élégiaque absolument sublime. Et toute leur histoire de théâtre est basée sur cette liberté. Nous, en France, on a un théâtre plus construit, plus intellectuel. On a inventé la règle des trois unités au XVIIe siècle, donc unité de temps, de lieu d'action. Qui fait qu'on ne pouvait pas en changer. Donc on a un théâtre très construit, très établi, très pensé, et dont on continue à avoir du mal à se libérer. D'ailleurs, ça continue même dans parfois dans les films qu'on tourne, même dans les scénarios qu'on reçoit, où il faut qu'on soit dans la grosse comédie franche, soit dans un drame réaliste intime. Mais on a encore du mal de pouvoir passer comme ça
dans toutes les facettes de la vie. Et c'est ce que réussit Alexis Macart.
Et c'est ce que réussit très bien, je trouve.
Très bien. Ouais. Dans ce métier, il n'y a pas de règles, mais il faut les connaître. Voilà, comme ça.
Très bien.
Non, mais il est brillant.
Et vous l'êtes tout autant, sincèrement, pour vous avoir beaucoup vu avec plaisir au théâtre tous les deux.
Beaucoup trop.
Rarement, non.
Ça, c'est agréable. Ça,
mais...
C'est vraiment une pêche. Là.
Je sais pas si vous le ressentez, mais en tout cas, moi, je vous ai rarement ressenti aussi épanoui, aussi à l'aise dans le plaisir d'être méchant, d'être drôle, d'être émouvant. Il y a une mise en abîme claire en vous faisant jouer un grand acteur au sommet de sa carrière qui se pose des questions sur sa biographie, sur le regard qu'il a de sa vie, sur cette transmission ou cet héritage vis-à-vis de Nicolas Briançon. Évidemment qu'il y a cette mise en abîme, mais au-delà de ça, vous jouez, vous incarnez, vous portez, vous interprétez magistralement ces rôles, et c'est un bonheur d'aller vous applaudir au Théâtre Montparnasse, et je vais y retourner puisque c'est un partnership, et j'ai bien compris qu'il fallait renvoyer des balles.
C'est un beau matériau, hein. Très beau. L'acteur le plus admirable du monde ne peut jamais sauver une mauvaise pièce. Celle-là, elle est gigantesque. J'exagère, mais elle est presque facile à incarner parce qu'elle est tellement brillante, et elle aborde la vie d'une manière tellement riche et tellement juste que si on n'arrive pas à faire ça, c'est qu'il faut qu'on quitte la profession.
Et on a de la joie à jouer ensemble.
Je me souviendrai de presque tout. Ils sont mignons.
C'est beau.
C'est au théâtre du Montparnasse. Voici Tanguy Pastureau.
Bah oui.
J'ai toujours aimé les peluches, c'est ce qui fait que je me sens proche de Julien Santini, qui est celui d'entre nous qui ressemble le plus à une peluche, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il est fois avenant et rassurant. S'il faisait la parade Disney, ce serait le seul à ne pas avoir endossé de costume pour plaire aux enfants. Un pédophile exceptionnel, du genre à avoir une statue en bronze à son effigie à Pattaya, mais il a choisi d'aller vers la lumière et la bonté d'âme. En fait, il est peut-être juste gourmand et se dit qu'il va garder les bonbons pour lui. Le principal obstacle à la pédophilie, c'est souvent l'avarice. Tout ça pour vous dire, un, que Julien Santini est une belle personne. Deux, que j'adore les peluches. Par exemple, sur scène, j'ai un ours en peluche qui symbolise la douceur et une batte de baseball qui symbolise la violence. Alors bien sûr, on peut faire l'inverse. Attaquer les gens avec des peluches, ça rendrait le terrorisme plus mimi. Et dormir avec une batte de baseball, ce qui implique de mettre un pyjama épais au risque de se retrouver à 3h du matin plongé dans une relation passionnelle avec une batte. Je ne juge pas, j'adore le sport. Et récemment, Leïla Kaddour, notre amie qui nous parlait lors d'un quiz d'une mode, celle des labobous. Leïla, dans l'émission, ne s'exprime que sous forme de quiz et ça déteint sur elle. Ce matin, elle m'a dit « Attention, je cherche le mot qu'on se dit quand on se voit pour la première fois de la journée. » J'ai répondu « Je sais pas, ta gueule. » C'était en fait « Bonjour. » Bref, ce jour-là, j'avais la réponse parce que tout l'été, ma nièce Salomé, qui a 9 ans, a cherché des labobous. Alors, je vous montre celui de JB, notre rédacteur en chef. Ce n'est pas le sien, évidemment, c'est celui de sa fille. Mais enfin, j'imagine qu'il joue avec de temps en temps. Et à Aix-en-Provence, cet été, nous avons acheté à Salomé un labobou. Ces peluches ont deux caractéristiques. Un, elles sont chères pour ce que c'est. Deux, elles sont très chères pour ce que c'est. 39 euros minimum la boîte, parce que ça se vend en boîte opaque. Si bien que vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans. C'est comme les Audi à vide fumé. Hein, vous savez jamais s'il y a un dealer, un gangster ou un acteur sur le tournage d'un film d'Olivier Marchal. En fait, les labobous, ça
repose sur la surprise. Salomé, cet été, a ouvert sa boîte, fébrile. Parfois, ça débouche sur un moment de joie. Mais là, c'était pas le cas. Elle a fait la même tête qu'Hugo Clément devant une côte de porc. Moi, j'ai regardé le labobo, j'ai menti, j'ai dit, il est mignon. Ce qui est faux, hein. Ils sont poilus avec des oreilles pointues. Ouais. Un mélange d'elfes et de ton voisin grec. Hein, avec des expressions faciales exagérées, comme les chanteuses québécoises quand elles poussent la voix. Tu sais, à la fin de leur solo, je suis toujours surpris qu'il n'y ait pas minimum quatre nourrissons qui aient giclé de leur bavant. Tellement elles se donnent. Et je sais pas pourquoi Salomé n'était pas contente. Elle me soutenait qu'il s'agissait d'un lafoufou, un faux laboubou. Oui, j'ai passé l'été dans une dimension parallèle.
Oui, hein. Je vois.
Alors que vous tous, vous buviez des spritz en pratiquant l'évasion fiscale, moi j'essayais de distinguer qui était laboubou, qui était lafoufou. J'ai compris que sur le marché de Cassis, à 9 euros l'unité, c'était des lafoufous. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai trouvé ça astucieux, le coup de la boîte opaque. Tout devrait être comme ça. En matinale, Nicolas Demand dirait tout de suite Patrick Cohen. Enfin, je crois, il ouvrirait une boîte, et là, il y aurait Smaïn ou Francis Holmes. Mais là, ça casserait le côté linéaire de l'antenne. Qu'est-ce qu'on s'ennuie sur Inter? Voyez les talibans. Certains, j'ai lu ça, sont polygames. Pas tous. Hein. Je ne veux pas essentialiser les talibans. Pas de clichés. Mais comme leurs dames ont l'obligation de porter la burqa, bah, ça fait comme les laboubous. Hein, le mari sait jamais sur qui il va tomber. Bah, c'est excitant. Ok, de son point de vue à lui seulement. Mais il n'y a pas de routine. Ah, Sandra! Mais je pensais que c'était Sandrine ce soir. Bon, bah, je mets les lasagnes, le plat signature de Sandra au frigo pour demain. Les laboubous, c'est moche, c'est cher, mais ça cartonne. Un article du Point dit même que les adultes se sont mis à en acheter. Attention, ça sent l'arnaque. Il y a un mois, je parlais des tétines pour adultes. 4000 articles dans la presse, j'ai toujours pas croisé un adulte avec une tétine. La plupart des tendances ne concernent que 20 TikTokers à la con dans le monde. Regardez Renaissance, le parti politique, on en parle tout le temps, ils sont 4. Les laboubous, auditeur mature qui a choisi de moisir en jouant au bridge. Je t'explique, sont des peluches, eh bien, porte-clés. C'est la différence qu'ils ont avec Julien Santini, qui n'a pas d'anneau sur la tête. Ah, sinon, je l'accrocherais à mon sac. Et ce serait tellement chic de se balader avec un humoriste à la mode. Branché, hein, quand je sors avec Daniel, on nous jette des pierres. Les chiffres sont dingues. Il y a 300 laboubous différents, plus que de nationalité dans une soirée Erasmus qui tourne à l'orgie. Au Royaume-Uni, en mai, il y a eu des émeutes dues au manque de stock de laboubous. Nous sommes en train de sombrer intellectuellement. Les douanes françaises cet été ont saisi 70 000 lafoufous, des faux laboubous. Pendant ce temps, tous les gofas passer tranquillou, les flics cherchaient des laboubous. À un moment, ils ont cru choper un gros laboubou, c'était Olivier Marchal, donc il tournait une scène de GoFast. Le prix de certains laboubous a flambé. Celui de GB vaut peut-être 4 millions d'euros s'il est rare. 2 euros si c'est un lafoufou. Et ce matin, j'étais en train de penser à ça quand France Info, cette saleté de radio qui n'annonce que des mauvaises nouvelles avec nos impôts, a sorti un article sur le net intitulé « Fin de la hype pour le laboubou, la peluche culte des réseaux sociaux ». Et voilà, ça y est.
Ça tombe.
C'est déjà fini. Le laboubou va rejoindre la longue liste des modes aujourd'hui disparus. La Santiago, le bandana, le communisme, l'expression sacrin et l'animateur Pascal Sanchez. Le laboubou aurait été important pour tant d'enfants le temps d'un été, pour quelques adultes en manque de repères aussi. Et puis, aussi vite qu'il est apparu, il va disparaître. Dans 3 ans, on en trouvera dans les vides greniers et des enfants devenus ados diront à leurs parents « Oh, j'en avais un comme ça avant. Comment ça s'appelait déjà ?» Et les parents qui auront passé l'été 2025 à essayer d'en trouver, ils répondront « Des laboubous !» Le temps passe, les modes aussi, restent les sourires des enfants gravés dans nos cœurs de parents. Et Julien Santini, comique à l'aspect si doux et à la fantaisie, elle aussi enfantine. Je t'embrasse Julien, j'embrasse Salomé. Mais JB, eh bien, je prends soin du laboubou de ton enfant.
Yes, Tanguy Pastoureau. C'est la bande originale. On se retrouve juste après Freak Slug, Honest Man.
That sunken mattress and that heart.
c'était Freak Slug, Honest Man, dans la bande originale sur Inter.
Un titre avec Honest dans cette émission. C'est presque de la contre-programmation.
Oxymore.
Ouais, un petit peu.
Le seul en scène, qu'en dites-vous, Pierre Arditi ? C'est un exercice particulier pour un acteur.
Oui, ça m'est arrivé avec une fois avec un texte que j'avais appris, Le Deuil des Roses d'André-Pierre de Mandiargues, et sinon j'ai fait des lectures comme ça, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Oui, c'est un peu étrange, on se sent un peu orphelin quand même. Jouer, c'est tout de même jouer avec quelqu'un d'autre.
Partager, oui.
On partage avec le public, mais enfin, bon, je ne suis pas fanatique, je préfère jouer que Nicolas Briançon que sans lui.
Nicolas, voilà. Vous avez beaucoup mis en scène, des seuls en scène, mais l'idée même de le faire vous
J'y pense. Il faut trouver le texte.
Okay. Ouais. Le texte, vous l'avez trouvé en tout cas quand il est signé Alexis Macquart. Ça s'appelle « Je me souviendrai de presque tout » avec Pierre Arditi, Nicolas Briançon et Miguel van der Linden. Mise en scène par Julien Boisselier, c'est au Théâtre Montparnasse.
Est-ce que vous avez des tempéraments d'addict, vous, dans vos vies ? Est-ce que vous avez déjà eu des pratiques ? Je ne parle pas de drogue parce que l'addiction, elle peut être à plein de choses. Je crois, vous, Pierre Arditi, que vous avez un temps été addict au jeu.
Oui. Il y a longtemps.
Ouais, ça se matérialisait comment ça a commencé?
Comment ça commence? Par hasard, deux amis qui m'ont emmené dans un cercle de jeu comme ça, et comme toujours dans ces cas-là, la première fois on gagne et donc on se dit c'est vraiment facile de gagner au jeu, et donc on y retourne.
Ouais, c'est ça.
Là on commence à perdre et alors après ça prend le pas sur tout le reste, donc j'ai fini par aller travailler, j'ai fini par me perdre. J'ai été sauvé par mon narcissisme. Ah. Oui, parce qu'un jour, je me suis regardé dans une glace, alors que j'avais perdu le fric des vacances de ma première femme et de mon fils, et je me suis retrouvé seul, je devais les rejoindre, je suis passé devant une glace, je me suis regardé, j'étais défiguré, un peu comme Dorian Gray, quoi. Et je me suis dit, bon là maintenant, ou tu te tires une balle dans la tête, ou tu arrêtes. J'ai décidé d'arrêter, j'ai mis 10 ans pour rembourser ce que j'avais perdu, et je me suis sauvé encore une fois, parce que mon visage ne me plaisait pas.
Qu'est-ce que ça vous procurait le jeu, physiquement? Parce que là, je parle à un acteur, donc j'imagine qu'il y a un ressenti...
Ça me procurait une sorte d'adrénaline malsaine. Hein, voilà. Et d'ailleurs, c'est très curieux, parce que quand je gagnais, c'était pas d'argent, et je dépensais ça tout de suite en achetant des cadeaux à ma femme, aux amis, trucs comme ça. Et quand je perdais, alors, j'avais ce que je voulais. Mm-hmm. Je me punissais moi-même de ce chancre. C'est-à-dire qu'effectivement, j'avais tout d'un coup cette haine de ce que j'étais incapable d'arrêter. Voilà. Bon, donc ça a été ça. Maintenant, il y a...
C'est remplacé par autre chose ?
Non. Oui. Oui. La vie. Je suis totalement
addict
de l'existence, a fortiori dans la mesure où je suis en train d'arriver au terme, et par conséquent, j'en profite, je me bourre la gueule avec ça, en attendant de ne plus me bourrer la gueule avec quoi que ce soit.
Profiter de la vie, ça veut dire avoir peur de la mort ?
Non, j'ai pas peur de la mort, ça m'emmerde. Voilà. Ou comme dirait Marcel Proust, ça m'embête. J'ai pas envie de quitter tout ça, et j'ai surtout pas envie de savoir que vous allez continuer, alors je ne suis plus là.
Ça, voilà. Et vous, Nicolas, il y a un tempérament d'addict.
Moi, je pense que j'ai une nature extrêmement addictive, mais je suis tellement terrifié d'avoir une addiction que j'arrête. Par exemple, j'ai fumé dans ma vie et j'ai arrêté du jour au lendemain à un moment en me disant non, mais tu peux pas dépendre de ça. J'ai pas d'addiction à l'alcool. Non, j'ai une addiction à mon travail. Ça je pense qu'on peut. On peut le dire, j'ai une addiction.
Au point d'être malheureux si vous en manquez, au point d'avoir même
mais
accepté...
Mais j'en manque pas parce que je peux pas en manquer.
On peut toujours
en manquer. Non, mais je peux pas en manquer parce que je me crée des... Moi, j'ai pas eu... Mon téléphone n'a pas sonné régulièrement tout au long de ma carrière. Donc, les projets, quand j'en avais pas, j'en créais. J'en faisais, j'en suscitais.
Alors, est-ce que vous avez accepté des projets par peur de manquer, avec des regrets en disant j'aurais pas dû.
Ma filmographie en témoigne. J'ai quand même
un bon
paquet de nanars dans lesquels j'ai tourné parce qu'on est tous pareils, on a des impôts, on a un loyer à payer, on a des enfants.
Non, si, il y en a un qui est culte. Meurtre à Saint-Tropez, non, ça ne s'appelait pas comme ça.
Non, j'ai pas. On va pas balancer des noms. Non, ça n'a pas de sens de balancer. C'est cruel de balancer des noms.
Moi, je peux.
Non.
Il y en avait un qui était.
J'ai fait quelques très bons films, il faut aussi le dire.
Je ne dis pas le contraire. Et de
projet de Nagui après.
Non, mais je vais le retrouver. En tout cas, pour les projets
moi,
qui...
Moi, personnellement, je ne donnerai aucun nom, mais...
Moi, je peux en donner au moins des aventures d'Alice et Chloé.
Oui.
Voilà. Ah oui, oui, c'est vrai.
C'est un truc érotique. Ah non,
c'était
tourné.
Vous, c'était Mystère à Saint-Tropez, pas Meurtre à Saint-Tropez. Ça, c'est un.
Ah oui, ah oui, je me souviens de ce film.
Qui êtes-vous? Comment on peut pas parler-vous? Comme boule.
Au printemps, vous partez en tournée avec.
Comme boule.
Au printemps, vous partez en tournée avec Le Prix, une pièce de Cyril Gély, c'est ça, avec Ludmilla Michael, que vous avez déjà joué.
Ah, vous me parlez de moi, la part
de l'avenir. Oui,
oui, oui, oui. On va partir en tournée, oui, avec cette pièce-là. On s'est arrangé avec le Théâtre Montparnasse.
Et vous avez là aussi un planning extrêmement chargé. Il y a Maudit que vous avez tourné pour France 3. Il y a Le Sang de la Vigne que
oui,
vous aviez interprété.
Oui, on va peut-être en faire une petite.
Exactement.
Ressucée, oui.
Très bien. Dédite, et oui. Puis, un petit air de bonheur. Ça, c'est une fiction également. C'est une comédie.
C'est une comédie. Une comédie d'où sa mère avec mon copain Laurent Gérard qui m'imite effectivement très bien.
Très bien. Nicolas, toujours à l'affiche d'Une place pour Pierrot, film dont on a parlé à ce micro d'Hélène Mélie, qui est absolument formidable, qui est touchant, émouvant, intelligent. Vous partagez l'affiche notamment avec François-Vincent Tellier que vous évoquiez tout à l'heure.
Mon vieux copain.
Aussi. Et puis Bistromania. Une série qui retrace la révolution culinaire des années 2000, qui est en intégralité sur France.tv.
Qui est saluée par la critique.
Oui, qui est formidable.
Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ariodante, ça sera en décembre ?
Oui, Ariodante, qui est un opéra de Handel que je monte à l'Opéra Royal de Versailles en décembre. Oui, avec une très belle distribution.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument, désolé pour tous nos auditeurs qui se sont dit en écoutant l'émission « Waouh, cette pièce, quelle histoire originale !» Arditi et Briançon sont sûrement formidables. Ouais, c'est quand même un peu leur vie, ces deux personnages. Désolé, mais un homme au bout du rouleau qui a lâché l'arôme qui vit au milieu des pots de yaourt, c'est vous, Nicolas. J'ai eu de nombreux témoignages. En revanche, donner le rôle d'un comédien star mégalo méchant qui jubile quand il est désagréable avec son entourage, donner ce rôle à Pierre Arditi, mais où ont-ils été chercher tout ça? C'est pas possible. C'est tellement éloigné de vous, Pierre, mais tellement éloigné.
Merci Pierre, merci Nicolas, merci
à vous
mille
merci
fois
vous.
De nous faire aimer encore plus le théâtre.
Merci
bravo. Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Laïla.
Merci
Daniel.
Le temps court.
Mais on va se retrouver demain, même endroit, même heure, pour un retour en classe de terminale avec l'auteur Fabrice Caro.
Ah, j'aime bien l'artiste, mais enfin pas trop le bonhomme.
Passez une belle journée sur Inter.